Je veux prier pour mon frère, notre frère, qui a la responsabilité aujourd'hui de partager la parole de Dieu. Dieu a choisi Eric comme un instrument aujourd'hui, un instrument qui va livrer le message, un message qui est pour nous tous. Il n'y a pas une exception. C'est un message qui peut toucher le cœur de chacun de nous ce matin. Donc, merci Seigneur pour Eric, merci Seigneur pour sa fidélité et sa connaissance de la parole, de le message. Et je prie tout simplement que Eric est votre instrument ce matin, Seigneur, votre instrument de délivrer ce message pour nous dans une façon que chacun de nous peut apprendre. Et dans une clarté, Seigneur, je prie. Amen.
Amen. Donc, je voudrais vous parler d'empathie et de compassion. Empathie, vous connaissez, et compassion. Mais auparavant, j'aimerais vous lire un texte de la parole. Dans Ézéchiel, au chapitre 16, à partir du verset 4, et je pense que j'irai jusqu'au verset 7. Alors nous pouvons ouvrir la parole et la lire. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te laver. On ne t'a pas frotté avec du sel. Et on ne t'a pas emmailloté dans des langes. Personne n'a eu un regard de pitié pour toi, ni assez de compassion pour te prodiguer un seul de ses soins. Au contraire, on n'avait que du dégoût pour toi, et tu as été jeté sur le sol nu à ta naissance. Je suis passé près de toi, et j'ai vu que tu baignais dans le sang. Je t'ai dit de vivre malgré le sang dont tu étais couverte. J'ai insisté pour que tu vives. Je t'ai fait croître comme une plante des champs. Tu as grandi, tu t'es développé et tu es devenue très belle. Tes seins se sont formés et tes poils ont poussé, mais tu étais complètement nue. De nouveau, je suis passé près de toi et j'ai vu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu mon manteau sur toi pour en couvrir ta nudité. Je t'ai promis fidélité et j'ai conclu une alliance avec toi. C'est ainsi que tu fus à moi. Je t'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Amen. Toute la compassion de Dieu est ainsi résumé dans ce texte d'Ézéchiel au chapitre 16. Il nous est parlé ici de l'abandon d'un enfant qui a été rejeté car il faisait horreur, il a été abandonné. Et le Seigneur a pris soin de cet enfant pour le couvrir. Personne n'avait songé à l'emmailloter, à le frotter avec le sel, il était dans son sang. Évidemment, c'est une évocation symbolique de Jérusalem, mais cela nous dit beaucoup de la compassion et de l'amour témoigné par Dieu. Et ce texte me fait penser à Ésaïe, chapitre 49, verset 16, « Quand elle t'oublierait, donc quand une mère t'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Il y a une personne qui ne nous oublie pas, qui nous a gravés dans ses mains et qui nous aime, qui étreint notre être tout entier dans ses bras. Il était question du Père tout à l'heure dans le témoignage qui nous a été donné à propos de la Sainte Seine, du Père qui embrasse, qui nous prend dans ses bras et qui nous témoigne d'un amour indéfectible, un amour entier et un amour sans condition, l'amour du Père. Je voudrais vous relater une anecdote qui a été vécue il y a plusieurs années de cela par un sociologue qui s'appelle Frédéric Lenoir et qui a travaillé dans l'orphelinat de Calcutta. C'est une histoire véridique, près des sœurs de Mère Teresa. Vous connaissez cette œuvre inouïe, extraordinaire de Mère Teresa. Quand elle a fondé son œuvre, sa congrégation, c'est lorsqu'elle a été éprise de souffrance de voir à l'abandon des mourants, des agonisants, et qui ne trouvait aucun hôpital. Et lorsqu'elle est venue, vous savez, c'est une petite femme très frêle qui fait à peu près 1m48, qui faisait à peu près 1m48, petite taille, mais quelle force, quelle vigueur. Et elle a amené un mourant à l'hôpital, et cet hôpital lui a refusé l'ouverture pour permettre à cet agonisant de vivre en humanité dans des meilleures conditions. Et c'est là qu'est née, je dirais, cette œuvre extraordinaire, puisqu'elle fonda non seulement des compagnies pour permettre à des mourants, à des agonisants de vivre dans les meilleures conditions, les soins palliatifs, elle ouvrit aussi un orphelinat. Et je vais vous raconter cette histoire que nous relate Frédéric Lenoir, qui a été témoin d'une chose absolument extraordinaire. Dans cet orphelinat, il y avait une sœur qui avait ramassé dans une poubelle un enfant, un bébé. C'était un bébé, gisant, mais qui était encore en vie. Elle le ramène. Cette sœur, elle le ramène à l'orphelinat pour en prendre soin. Mais l'enfant est comme inerte, sans vie. Il lui donne ce qu'il faut comme nourriture et comme soin, comme premier soin. Mais cet enfant était sans vie, d'une tristesse, ce bébé, d'une tristesse inimaginable, fermant ses yeux, comme refusant de vivre. Cette histoire est authentique. Elle prend ce bébé. Elle s'assit, elle frotte cet enfant avec énergie, avec douceur et énergie, force et douceur. Puis, peu à peu, les premiers sourires gagnèrent le cœur de ce bébé. Puis un fou rire est venu sur le visage de cet enfant qui est revenu à la vie. Parce qu'une sœur a décidé d'en prendre soin, de l'étreindre, de ne pas l'abandonner. C'est la force de la dimension de la compassion qui a redonné la vie à cet enfant. Et cet enfant a vécu. Et à travers, je dirais, son fou rire, parce qu'il a éclaté de rire, il a dit oui à la vie. Oui à la vie parce qu'il était aimé. Vous voyez, ce texte d'Ézéchiel que nous avons lu et ce texte d'Ésaïe qui vous a été rappelé pour illustrer le texte d'Ézéchiel, chapitre 16. Il nous dit combien Dieu nous a gravés dans ses mains. Combien Dieu, le Dieu de la compassion, le Dieu de la miséricorde, nous a gravés dans ses mains. Chacun et chacune ici. Et quand le Seigneur nous exhorte, c'est parce qu'il nous aime. Alors il peut exhorter fort, mais Dieu, il a quelque chose à nous dire. Il nous aime. Il nous aime. Quand un père, je dirais, ne montre et ne manifeste pas quelque part ses réprimandes, c'est qu'il n'est pas dans l'amour. Le Père nous manifeste son amour et il nous dit la vérité et il nous parle en vérité. Il nous corrige. Parce qu'il nous aime. Mais Dieu veut que nous embrassions son amour. Et lui, il nous étreint et nous ramène à la vie. Et nous ramène à la vie à travers Jésus-Christ, qui à la croix a pris, je dirais, notre péché. Alors je voudrais, pour illustrer mon propos, vous parler de l'empathie et de la compassion. L'empathie et la compassion sont deux états que nous sommes appelés à connaître tout au long de notre existence. D'accord ? Nous connaissons l'empathie. Alors là, pardonnez-moi, je vais demander à mon épouse. C'est mon réveil du matin. Il est temps que je me réveille. Mais revenons au sujet. L'empathie et la compassion sont deux états que nous sommes appelés à connaître donc, tout au long de notre existence. Mais si nous sommes remplis de son esprit, nous devrions avoir en tête, ou plutôt en conscience, d'être constamment remplis de compassion pour notre prochain. Dieu est rempli de compassion pour la personne déchue, pour la personne éprouvée, pour la personne blessée, pour la personne en difficulté, pour la personne en détresse. Dieu est constamment dans cette dimension de la compassion et de la bienveillance. Nous éprouvons de l'empathie quand nous nous mettons à la place de l'autre. C'est la définition de l'empathie. Quand je suis et je me mets à la place de l'autre, je suis dans l'empathie. Vous me comprenez bien ? Souvent, nous nous mettons dans une situation d'empathie juste pour nous rassurer moralement. Ça nous fait du bien d'être dans l'empathie. C'est souvent ça. C'est la réalité de l'empathie. Mais lorsque nous décidons d'agir et d'aller bien au-delà de l'empathie, cela s'appelle la compassion. Vous me suivez ? Vous êtes d'accord ? Oui ? Eh bien, pour illustrer mon propos, on va imaginer une scène. Je pense qu'on aime bien les images et on aime bien, je dirais, les mises en scène pour bien comprendre. Alors, je voudrais vous parler de trois personnages. Vous avez l'infortuné, vous avez empathie et vous avez compassion. L'infortuné. Alors, l'infortuné, il se balade, il se promène, mais il est tête en l'air, un peu comme moi. Souvent tête en l'air. Et l'infortuné trébuche. Il tombe dans une fosse. Et l'infortuné est blessé. Il crie à l'aide. Il crie au secours. Et puis vous avez empathie qui vient, qui est là et qui s'assoit. Ah ben mon pauvre gars! Ben voilà, t'es bien malheureux, hein ? Ben, ça aurait pu être moi. J'aurais pu être dans cette situation. J'aurais pu aussi trébucher et tomber. Empathie. C'est vraiment avoir les sentiments que peut vivre l'autre, mais on est dans l'empathie. Vous me suivez ? On en reste là. Au lieu de crier à l'aide, empathie, il se plaint et gémit avec l'autre. Ça nous arrive, hein ? Vous êtes d'accord ? Ça nous arrive de gémir et de nous plaindre avec l'autre, de dire « Oh, mais je te comprends bien, ce que tu as traversé, quelle épreuve !» J'en suis le premier, hein, je ne vais pas vous culpabiliser. J'allais dire, on ne donne un bon message qu'à partir du moment où on est aussi dans le vécu. Vous me suivez ? Mais il y a compassion qui arrive. Et compassion, il ne commente pas la situation. Immédiatement, compassion, ça c'est mon épouse, quand elle m'a vu, je dirais, dans l'état où j'étais, elle m'a amené tout de suite aux urgences, elle n'a pas discuté, elle n'a pas commenté, elle est allée tout de suite aux urgences. Et là, tu as eu de la compassion pour ton mari. Ce que je vous relate, c'est un peu la vérité. Hein. Ben, la compassion se met en action. On ne commente pas. C'est après que l'on console, qu'on prend soin. Mais la compassion se met tout de suite en œuvre, se met tout de suite à l'action. Vous me suivez ? C'est une illustration de ce que nous vivons dans le quotidien, dans ce que nous sommes. On n'a pas besoin d'empathie, mes frères et sœurs. On a besoin de vivre la dimension de la compassion, la personne qui se met en action, qui, évidemment, n'a pas toujours les moyens pour résoudre vos problèmes. Et nous verrons avec Pierre et Jean qui étaient au portique à Jérusalem, avec cette personne qui était là mendiant et qui demandait de l'or et de l'argent. « Je n'ai ni or ni argent, dit Jean à cette personne, mais ce que j'ai, je te le donne en Jésus-Christ, lève-toi. » La dimension de la compassion, c'est pas forcément avoir des moyens qu'on va mettre en œuvre, mais tout simplement cette dimension de la prière agissante qui est efficace, qui est efficace. Être ému de compassion, mes frères et sœurs, c'est bien plus qu'une attitude. C'est une attitude qui est en fait mobilisée, la compassion est mobilisée pour intervenir auprès de celui qui souffre. L'empathie, c'est, comme je vous l'ai décrit précédemment, cette tendance à se mettre dans la peau de l'autre. Et vous savez que c'est l'un des traits les plus aimables de notre esprit. L'empathie, c'est le trait le plus aimable de notre esprit. Il y a un côté sympa à être empathique, hein, trouvez pas ? D'accord ? Mais avant tout, l'empathie, qui est une écoute bienveillante, ça nous fait du bien. Mais est-ce que ça fait du bien à l'autre ? C'est la question que je pose. Est-ce que d'être empathique, ça fait du bien à l'autre ? Probablement pas. Vous me suivez ? Vous êtes d'accord ? En fait, ça nous fait du bien moralement d'avoir de l'empathie. C'est souvent, je dirais, le plaisir de s'entendre, d'avoir de belles paroles pour les autres. On comprend les émotions, mais c'est souvent au service de notre désir de reconnaissance. C'est pour qu'on parle bien de vous. Mais connaître les émotions et les besoins des autres n'est pas nécessairement synonyme de bonté, de miséricorde. L'empathie, c'est souvent passif. C'est, au fond, sans engagement de notre part. Les problèmes des autres font résonance en nous, et puis c'est tout. J'aimerais simplement vous dire, méfions-nous de nos sentiments empathiques. Ce ne sont pas ces sentiments qui caractérisent l'amour du prochain. Le véritable amour, c'est en effet la compassion. Le véritable amour, c'est la compassion. En fait, la compassion, c'est se soucier de l'autre. C'est se soucier du prochain. C'est se mettre en marche pour secourir l'autre. Vous me comprenez ? C'est se mettre en marche pour secourir l'autre. En fait, en hébreu, compassion se dit « ram », ce qui signifie « avoir une attitude intérieure ». Un cœur en souffrance pour les autres, un véritable cœur qui nous pousse littéralement à nous occuper des personnes dans la détresse, à brûler de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la maladie, dans la faiblesse, dans l'épreuve. Souvenons-nous de ce père qui brûle de souffrance pour son fils égaré et qui avait dilapidé son héritage. Mais ce père, il attend chaque jour le retour de son fils. Il est à la porte. On peut lire ce court verset dans Luc 15, chapitre 15, verset 20, qui relate le retour du fils perdu et qui se rend à nouveau chez son père. Et il est dit dans ce verset, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Le père courut et se jeta à son cou. Le père n'est même pas venu réprimander le fils qui avait dilapidé tous les biens. Le père était là chaque jour, veillant sur son fils, espérant son retour, et quand il vit son fils revenir, ce fils égaré, perdu, qui avait dilapidé tout l'héritage, qui avait fait sans doute les 400 coups. Tout n'est pas décrit, mais on peut imaginer la scène. Et ce père courut et le prit à son cou. Waouh ! L'amour du père. Je ne voudrais pas faire une nouvelle chute. Dans le psaume 86, verset 15, le psalmiste déclare « Toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et le roi David, dans tous les psaumes, cesse de dire que Dieu est un Dieu plein de compassion. Être ému de compassion, c'est être poussé par l'Esprit de Christ en nous. C'est se mettre en mouvement pour exercer la miséricorde, c'est-à-dire en prenant part à une immense sensibilité aux souffrances des hommes et des femmes, des opprimés et des boiteux, des foules affamées et qui sont confrontées aux souffrances spirituelles et physiques. Souvenons-nous lorsque Jésus se rend à la porte des brebis et voit parmi la foule des boiteux, d'hommes et de femmes qui sont épuisés par la maladie, un homme qui est là, paralysé comme cela a été rappelé dans quelques textes et ces derniers temps, un homme paralysé depuis 38 ans, gisant sur le sol et attendant qu'on le jette dans l'eau pour recevoir la guérison. Jésus s'interroge. Ne s'interroge pas, mais il se présente à lui. Il est ému de compassion et interroge cet homme pour venir ensuite à son secours. La compassion, c'est un feu brûlant qui s'allume et qui se manifeste en nous, dans nos émotions, devant des situations où des personnes sont en détresse, en difficulté, qui sont soit très malades, ou épuisés, et tout nous porte à venir à leur secours. J'aimerais simplement vous dire que la compassion, ça ne relève pas de notre chair. C'est juste impossible. Parce que la chair, elle nous dit toujours, notre chair, hein, nos états émotionnels, nous disent toujours non quand il s'agit de compatir. Tout nous porte le plus souvent à nous éloigner du prochain qui est en souffrance, à l'éviter. Je suis désolé de le dire. Tout nous porte à éviter le malade qui est en souffrance. Il est plus facile d'être dans l'empathie que d'être dans la compassion. La compassion, elle peut s'exprimer sous différentes formes. Et elle peut s'exprimer par l'intercession. Quand je ne peux pas. Je vois bien, par exemple, l'envie, je l'avais. J'avais envie de venir vous voir. Mais l'arthrite, c'est douloureux. Donc il y a parmi nous des gens qui sont malades. Et qui ne peuvent pas, je dirais, faire ce qu'ils aimeraient entreprendre. J'allais dire, quelque part, je suis très heureux, parfois, de connaître, quand on avance dans l'âge, on commence à avoir de l'arthrose, on commence à avoir plein de soucis de santé et plein de soucis physiques. Et donc moi, je compatis parce que c'est une réalité que je commence à connaître et à expérimenter, et tant mieux. D'accord ? Ce qui amène beaucoup moins d'exigences. Mais qu'est-ce que l'on peut faire à la place ? C'est de porter de manière fervente la situation de nos frères et de nos sœurs. Vous me suivez ? Si je ne peux pas faire ce que je peux faire, c'est la foi agissante, c'est la prière agissante. Vous savez, dans la Bible, il est dit, ce n'est pas le cœur circoncis ou incirconcis qui m'importe, mais c'est la foi agissante en Christ. Vous me suivez ? La foi agissante, l'amour agissant. Et l'amour agissant, il peut se traduire par la prière fervente. Et bien des frères ou bien des sœurs qui sont âgés parmi nous ne peuvent plus, je dirais, courir. Oui, mais leur foi agissante est d'une grande efficacité. Le saviez-vous ? La foi agissante des têtes grises, hein, qui ont du mal à se lever. C'est une grande efficacité. Ça perturbe même Satan, parce qu'il voit des hommes et des femmes à genoux, en prière, pas forcément à genoux quand on est dans le handicap, mais qui sont là en priant. Et j'aimerais honorer mes frères et sœurs aux têtes grises qui prient et qui intercèdent le Seigneur. Amen. Amen. Mais quand tu es en pleine santé, alors vas-y, sois dans l'action. Selon le talent que tu as reçu, car tu n'as pas toujours le talent. Mais tu peux, toi, dire, tiens, je connais telle ou telle personne qui peut venir au secours et qui a les compétences, qui a le talent. Et la somme des talents font la compassion pour entourer la personne en détresse, en difficulté. Je répète ce verset que je vous ai donné, Galates chapitre 5, verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. » Autrement dit, ce que tu fais ou ne fais pas, mais c'est la foi qui est agissante par la charité. Amen. Mais la foi agissante par la charité. Tout ce que tu fais, fais-le par amour pour l'autre. Vous me suivez? Tout ce que tu entreprends, fais-le par amour pour l'autre. Tout ce que tu fais. Si tu n'as pas l'amour, tu es une caisse de résonance. C'est ce qui nous est dit dans Corinthiens, et cela nous a déjà été commenté. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 36, Jésus, en voyant la foule, fut ému de compassion pour elle. Et Jésus dit, parce qu'il observa qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus fut saisi dans son fort intérieur, c'est ce que nous commente l'évangile de Matthieu. Jésus saisi dans son fort intérieur par la foule languissante et abattue. Il comprend la souffrance, il se laisse interpeller, il ressent l'immense besoin de répondre à l'appel qui a été le sien lorsque il lut ce verset dans la synagogue, ce verset d'Ésaïe, que nous retrouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18-20. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Or, nous avons besoin d'être revêtus de cette compassion qui vient de Christ. Amen. Car cette compassion n'est pas quelque chose de naturel. La compassion, elle vient de Jésus. Nous avons besoin de demander à l'Esprit du Seigneur de nous revêtir comme Jésus fut revêtu de la compassion de Dieu. Vous me suivez ? Oui ? Je ne peux me mettre en action, je ne peux avoir la foi agissante, je ne peux être dans la compassion si je ne suis pas revêtu de l'amour du Seigneur. Parce que sinon, ce sont des œuvres. Et ces œuvres, ce n'est pas la foi agissante, efficace. L'efficacité, elle résulte de l'Esprit du Seigneur qui se saisit de moi et qui me met en mouvement. La compassion, c'est se laisser être en mouvement. L'empathie, elle se manifeste au niveau de nos émotions. La compassion nous pousse à l'action. La compassion, elle brûle en nous. Elle se manifeste dans nos entrailles. Et c'est cela que Jésus vivait dans ses entrailles quand il priait pour un malade, purifiait un lépreux, ressuscita Lazare. Vous voyez ? La compassion de Jésus, elle est efficace. C'est la prière. Mais c'est une prière qui compatit avec la souffrance de l'autre. Vous me comprenez ? Je prends et j'embrasse et je remets à Jésus, à genoux, le problème qui peut être le sien. Amen. Je l'embrasse, je l'étreins. Et au nom de Jésus, je relève cette personne afin qu'elle puisse avancer. Qu'elle puisse avancer en étant délivrée. Et le Seigneur délivre par sa main toute puissante, sa main agissante, parce qu'il est là au milieu de nous. Et il fait de nous des ambassadeurs pour cette semaine. Parce que ce n'est pas un message qui est à reporter, je dirais, dans les 2 ans qui vont venir. Non, c'est maintenant. Cette semaine, Dieu va vous donner l'occasion d'exercer la compassion. Vous le croyez ? Cette semaine, et j'allais dire dès cet après-midi, à l'heure où vous allez sortir, votre foi va se mettre en action. Car Dieu va vous mettre en relation avec un frère ou avec une sœur qui a besoin d'être étreint de l'amour de Dieu, d'être embrassé de l'amour de Dieu et de recevoir toute la compassion. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors moi j'ai envie de vous dire que Jésus soit avec vous. C'est dans Actes chapitre 10 verset 38. Que Jésus soit avec vous pour aider, pour secourir. Que Jésus vous bénisse. Amen.